Mais la correction, c'est quelque chose qui peut arriver aussi. L'évolution chez les uns et chez les autres aussi. Je crois parfois avoir dans ma vie tenu des propos bien plus à droite que ce que je vous dis aujourd'hui, mais c'est l'évolution.
Est-ce que ça signifie que la stratégie présidentielle du MR d'aller chercher des voix à droite et un peu plus à droite, elle risque d'échouer, alors qu'on sait que la Wallonie et Bruxelles sont quand même un petit peu plus au centre-gauche? Est-ce que, cyniquement, entre guillemets, Georges Boucher n'a pas raison d'aller chercher à droite toute pour se rendre incontournable aux partis de centre et de gauche?
Seul l'avenir le dira. En tout cas, ce dont je peux attester, c'est qu'il croit ce qu'il dit. Et c'est déjà fort important. Et si je peux alors rassurer encore, en ce qui me concerne, moi j'ai toujours dit, je veux crever libéral. Donc je continuerai à appartenir à la famille libérale et pas ailleurs. Le monde politique ne peut pas être une caste.
Il nous reste encore une dernière saison, c'est l'été. Vous aviez choisi l'été 2016 pour faire 850 km à pied, un tour de Wallonie. Et en fait, vous marchez tout le temps. Là, on ne marche pas aujourd'hui parce qu'il y a trop de vent. Pourquoi vous marchez?
D'abord par bien-être. C'est une manière de pouvoir faire, de permettre à son corps de continuer à faire de l'effort, de l'exercice et par santé. Ça, c'est vraiment la première chose. Et puis, j'ai découvert un peu à la fois en marchant que c'était sans doute la meilleure manière aussi d'aérer son cerveau, de réfléchir, d'observer la beauté, parce que c'est Wallonie, cette Belgique, enfin, c'est beau, on ne s'en rend même plus compte, il faut marcher pour ça, il faut aller à ce pas, quel pas du genre humain pour le comprendre. Et c'est comme ça aussi que parfois, ben voilà, j'ai l'une ou l'autre idée, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire dans ma propre commune ou en politique, c'est clairement de dire que ça, c'est important à l'équipe, puis il y a une dernière raison. Elle est purement amoureuse, parce que c'est aussi pour l'occasion, le seul moment où, avec Virginie, on peut se retrouver à deux. D'ailleurs, souvent, on marche qu'à deux. Et peut-être alors aussi échanger des choses qu'on ne ferait sans doute pas si on était resté le même temps, le même moment dans un fauteuil à la maison.
Est-ce que vous marchez aussi parce que, par nature, le monde politique, il est trop éloigné de la population?
J'irai pas non plus jusque-là. Je crois que ce serait trop de dire ça, mais on doit faire attention à cela. Clairement, on peut pas, le monde politique ne peut pas être une caste. Et je ne dis pas qu'il l'est. D'ailleurs, je crois qu'en Belgique, en général, la plupart des hommes politiques connaissent bien et leur quartier, leur ville et leur environnement.
Mais à partir d'un certain niveau, quand vous êtes ministre, quand vous passez votre temps dans votre voiture, au bureau, au Parlement, à rencontrer tout un tas de gens, à aller sur le terrain pour les aéroports, par exemple, pour vous, c'est quand même très compliqué d'être encore en contact avec, entre guillemets, les petites gens.
Oui, le risque est présent, je ne dirais pas qu'il est absent. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense, et j'en ai moi-même abusé, donc que les choses soient claires, mais vraiment je crois qu'il faut mettre une limite dans ce qu'on appelle la succession des mandats. Vous savez, si vous pouvez être 10 ans au Parlement, bah, c'est très bien. Et si vous avez bien fait votre boulot pendant 10 ans, c'est encore mieux. Alors faites un petit stopping de 5 ans, et si la population, votre parti estime qu'il faut revenir, mais revenez. Mais faire carrière en politique, et je le dis, j'ai moi-même abusé de cela, mais faire carrière en politique, c'est peut-être ça qui vous éloigne alors, effectivement, du sentiment de la population, parce qu'on en fait plus une profession qu'une passion. Or, la politique, ça doit rester une passion.
Mais justement, vous arrivez à quasiment 30 ans de vie politique. 30 ans, c'est trop, c'est ce que vous nous dites, alors que vous avez quantité de collègues qui dépassent largement parfois les 30 ans.
Je ne vais jamais juger les autres. En ce qui me concerne, je crois que c'était assez, plus qu'assez, et qu'effectivement, on doit pouvoir changer certaines règles. Et même dans ma propre commune, où j'ai donné mais vraiment tout ce que j'avais pour essayer de la changer, la modifier, 20 ans bourgmestre, à la fin, vous avez une tendance à ne plus vraiment écouter les autres, et ça, ce n'est pas bon.
Pendant toutes ces années, qu'est-ce qui vous a fait avancer? C'est quoi la clé qui vous faisait démarrer tous les matins?
La passion. Vraiment la passion de la chose publique. La lecture. Moi, je lis tous les journaux, français, flamands, et même quand j'étais ministre, j'avais cette chance de pouvoir également avoir des journaux de la grande France, comme on dit. Et ça, cette différence de sensibilité à travers les journaux, c'est ce qui permet de se créer un chemin. J'ai toujours aimé cela, c'est de se dire, il n'y a pas qu'un chemin, il n'y a pas qu'une vérité. Moi, je suis de ceux qui croient qu'il y a plusieurs vérités. Et que donc, pour rapprocher une forme de chemin plus cohérent, C'est en mettant sévérité ensemble qu'on y arrive.
Comme dernier mot, quel a été le moment de bascule dans votre vie, le moment où vous vous êtes dit « c'est ça que je veux faire et c'est ça que je vais faire » ?
La rencontre avec Jean Gol. Si je n'avais pas rencontré Jean Gol, je crois que j'aurais fait évidemment autre chose, peut-être plus de droit encore. Je serais resté comme, sans doute comme avocat, parce que j'avais cette envie aussi d'être avocat. Mais c'est Jean Gol. Moi, si j'étais pas tombé sur les yeux de Jean Gol et sur sa manière d'être, et puis vous le savez, on va pas quand même se mentir, quand c'est peut-être une dernière interview, il y avait aussi Israël qui rapprochait Jean Gol et moi-même. On a très rapidement eu ce dialogue par rapport à Israël. Mais voilà, c'est lui qui a fait encore ce que je suis aujourd'hui.
Dans ses yeux, vous vous êtes vu bourgmestre, ministre, quand même pas.
Pas jusque-là, mais Jean avait de l'ambition pour les autres. Et donc, il vous forçait réellement à pousser plus loin votre raisonnement, votre travail, etc. Et donc, une fois qu'on était pris dans cette mouvance, et j'ose pouvoir le dire, dans son amitié, il n'y a plus grand-chose qui pouvait résister.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de rajouter ?
D'abord, j'ai été très heureux de faire cette émission, je vais vous dire, mais à travers vous aussi d'avoir pu pendant de nombreuses années côtoyer toute la presse et souvent, pour ne pas dire tout le temps, avec des relations très correctes, respectueuses des uns et des autres, ce qui ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais pour moi, c'est le fait que la presse puisse fonctionner dans un pays comme le nôtre encore est une bonne chose. Et pour les démocrates que nous sommes, c'est indispensable. Ceux qui ont encore le rêve de supprimer ça, qu'ils réfléchissent à deux fois.
Merci Jean-Luc Luc pour ce moment, pour les quatre saisons. Merci aussi à Lionel Petit pour la prise de son et le montage. Merci également à Baptiste Huppin et Thomas Galisseux. Et surtout, merci à vous de nous avoir écoutés. Et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des quatre saisons.
Les quatre saisons, un podcast de Baptiste Huppin et Imad Messoudi. Mis en musique par Jérémy Boquet. Thank you.